en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Gérard Hort, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans les locaux de Canal Académie, au cœur de l'Institut de France à Paris. Alors, le 14 juin 2005 doit être certainement une date clé pour vous, puisque c'est à cette date que vous avez été fait académicien des sciences, comme 23 de vos collègues. Vous faites donc désormais partie de la section biologie cellulaire, moléculaire et génomique. Alors, précisons tout de suite, vous êtes actuellement directeur de recherche émérite au CNRS et professeur émérite à l'Institut Pasteur. Vos recherches ont porté sur le papillomavirus et les conséquences qu'il peut avoir sur les cancers. Alors, tout d'abord, comment en êtes-vous venu à vous intéresser au papillomavirus, Gérard Hort?
Je suis obligé de commencer par une anecdote, puisque il y a bien longtemps, j'avais obtenu de Jacques Monod un rendez-vous pour lui proposer un sujet de thèse sur un virus oncogène. Ce sujet n'avait pas beaucoup intéressé M. Monod, mais il avait attiré mon attention sur un virus du lapin qui provoquait des tumeurs dans lesquelles une enzyme était présente et une enzyme qui n'avait rien à faire dans cette tumeur et dont il avait été dit que c'était le virus qui était à l'origine de cette enzyme. Et Jacques Monod m'a dit, si c'est vrai, c'est sûrement très intéressant. Il m'a proposé de venir faire un séminaire pour analyser cet article dans son laboratoire. Et après mon séminaire, il m'a dit, excellent séminaire, monsieur Hort, il faut travailler ça. Et quand monsieur Monod vous dit cela...
Vous veniez avec une idée de thèse, il vous dit non, ça c'est pas bien, faites ça.
Voilà.
En l'occurrence, travailler sur le papillomavirus.
Sur le papillomavirus du lapin, pour essayer de comprendre si l'enzyme, la L-arginase, qui était présente dans les tumeurs bénignes, était réellement codée par un gène du virus. Parce que normalement, cette enzyme fait partie de la fonction du urogénèse du foie, elle n'a rien à faire dans le développement d'une tumeur. Alors le problème, c'était que ce virus ne se cultive pas, donc pour travailler sur ce virus, il faut partir de tumeurs qui contiennent le virus, et que ces tumeurs, on les trouve que chez des lapins qui vivent au bord du Mississippi. Alors il a fallu que l'étudiant que j'étais mette en œuvre une connexion avec les États-Unis pour récupérer des verrues. Ça a posé un nombre de problèmes, mais ça n'a pas...
Parce que voilà, le papillomavirus, en fait, ça... C'est un virus qui provoque en l'occurrence des verrues chez les lapins.
Mais en général, papillome, c'est une tumeur bénigne des épithéliums, dont les plus communes sont les verrues. Tout le monde a eu à un moment donné une verrue, donc a été infecté par le papillomavirus. Mais chez le lapin, l'intérêt, c'est que les verrues ou bien disparaissent, comme souvent chez l'enfant, ou persistent et se transforment en cancer. Donc c'est un modèle pour étudier le développement drôle les virus dans la genèse d'un cancer. Et en fait, ça a été le premier virus dont on a montré qu'il était capable de provoquer un cancer chez les mammifères. Donc c'est une sorte de paradigme, comme on l'appelle. Et des gens très, très célèbres comme Pittenhouse, qui a eu le prix Nobel, ont fait la grande partie de leur travail sur ce virus-là. Donc c'est pas un virus quand même... banal, c'est un virus qui avait déjà des titres de noblesse quand j'ai commencé à m'y intéresser.
Et alors comment êtes-vous passé du lapin à l'être humain?
Alors, ça se passait à l'Institut Gustave Roussy à Villejuif. Alors, vous savez que l'Institut Gustave Roussy, c'est un endroit où on traite des malades atteints de cancer, et le directeur de l'époque, le professeur Denois, avait voulu créer un département de recherche dans son institut, avait doté ce département d'un bâtiment, avait rassemblé des équipes de recherche, mais un beau jour a fait la constatation que tous ces gens-là travaillaient, soit la souris, le lapin, la poule, le cobaye, le hamster. Alors il a convoqué le responsable du département, il lui a dit, écoutez, si vous voulez continuer à travailler sur cela, ce qui est très intéressant, vous le faites ailleurs. Ou alors, vous vous intéressez au cancer humain et vous restez ici. Alors, c'était peut-être pas aussi brutal que ça, mais c'était quand même d'une manière très incitative qui a fait que beaucoup de ceux qui travaillaient sur des modèles animaux ou in vitro se sont intéressés au cancer humain. Pour moi, c'était simple. Il y a des verrues chez l'homme comme chez le lapin. Bon, à l'époque, on considérait qu'il n'y avait qu'un seul virus des verrues, que ces verrues étaient des tumeurs bénignes sans aucun intérêt et personne ne travaillait sur ce virus. Mais en lisant un peu, il m'était apparu qu'il y avait des verrues quand même peut-être plus dangereuses que d'autres. Il y avait une fameuse maladie rare où les verrues même donnaient des cancers de la peau. Et on s'était dit, bon, peut-être que si on collectionnait les verrues, analysait le virus dans les verrues, on trouverait peut-être des petites différences qui permettraient d'expliquer les différences dans l'évolution des verrues. Mais tout ça, c'était dans un contexte, un, où le virus ne se cultive pas, et deux, où il fallait trouver des verrues pour faire ce travail. Et bien, c'est cependant ce qu'on a fait. Et assez rapidement, on s'est aperçu qu'en fait, il y avait, non pas un seul virus, mais deux virus des verrues très différents, associés à deux maladies différentes, les verrues plantaires qui sont très douloureuses, comme vous le savez, ou les verrues vulgaires de la main, etc., puis thorax, puis quatre, puis... Et ensuite, en étudiant cette fameuse maladie rare, où les lésions persistent et évoluent vers le cancer, mais qu'il y avait un virus propre à cette maladie, dont le matériel génétique se trouvait dans les cancers, et ça a été la première démonstration que les papillomavirus pouvaient aussi joue un rôle dans un cancer humain.
Alors, après, alors voilà, quel type de cancer pouvait provoquer, enfin peut provoquer ce virus ?
Alors, maintenant, je vous dis, en 1975, on connaissait un papillomavirus humain, maintenant il y a 200. Donc on a effectivement élargi un peu le champ d'intérêt du domaine. Actuellement, on sait que certains papillomavirus, une quinzaine, sont les agents nécessaires du développement des cancers du col de l'utérus. C'est-à-dire que ce sont des virus très répandus, pratiquement toutes les femmes qui ont une vie sexuelle ont été infectées par ces virus, mais il y a une fraction minime de ces femmes chez lesquelles l'infection va persister, va se traduire par le développement d'une lésion qui progressivement, si on n'enlève pas, va peu évoluer vers le cancer. Donc ça, autrement dit, c'est un facteur nécessaire mais pas suffisant. Donc le cancer du col de l'utérus, c'est en France 3400 nouveaux cas par an, 1000 décès qu'on pourrait éviter, sachant qu'on connaît l'origine.
Parce que ce virus serait à l'origine de quel pourcentage en fait de col de l'utérus, de cancer de col de l'utérus ?
Certains disent 100%, moi je dis au moins 95% pour ne pas... Donc c'est vraiment la très 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 grande majorité, sinon la totalité des cancers. Mais alors à l'échelle mondiale, c'est 450 000 cas chaque année et c'est 250 000 morts à peu près. Et en général, dans les pays en voie de développement et chez les femmes jeunes. D'où la nécessité
de connaître parfaitement ce virus.
D'où la nécessité de connaître ce virus, parce que sachant que ce virus est l'agent étiologique nécessaire, parce que si une femme qui ne sera jamais infectée par ce virus, en fait c'est une quinzaine de virus, de papillomavirus, n'aura pas le cancer du col. Donc la condition sine qua non, c'est l'infection, avec toutes les réserves que j'ai émises, sachant qu'il ne faut pas avoir beaucoup de chance pour avoir un cancer, mais quand même, l'infection est au départ le facteur nécessaire. Parce que ça ouvre des perspectives très, très grandes en matière de prévention. La première, ça serait bien entendu la vaccination.
Un vaccin serait possible ?
Alors, oui, on peut revenir au lapin, si vous voulez. On a besoin de, quand on veut mettre au point un vaccin chez l'homme, on a besoin de petites précliniques avec des modèles animaux. Et alors, comme le lapin est sensible à un virus de cette famille, on peut essayer de mettre au point des stratégies de vaccination chez le lapin, vacciner le lapin, l'infecter après, montrer que ça empêche le développement de la verrue. Mais quand vous empêchez le développement de la verrue, vous empêchez le cancer, parce que le cancer n'est qu'une une conséquence de la verrue, quand elle n'est pas éliminée, encore une fois, là, chez le lapin aussi, il y a une question de chance ou de malchance. Et c'est ce qui nous a permis, il y a une dizaine d'années, avec les collaborateurs américains, de montrer qu'on peut effectivement faire un vaccin par une méthodologie dérivée du génie génétique, où on exprime la protéine principale de la coque du virus, qui n'a qu'une envie, c'est de s'auto-assembler en des particules qui ressemblent au virus. Alors on injecte quelque chose qui ressemble à du virus, mais qui n'est pas du virus, parce qu'on n'a pas d'acide nucléique. Et ensuite, on éprouve l'animal avec le virus très virulent, en général avec beaucoup de virus, beaucoup plus qu'il n'en rencontrerait dans les conditions naturelles, et on montre que ça protège. Alors ça a été la première démonstration directe que ce type de vaccin pouvait protéger. Ça a été confirmé chez le lapin, chez le chien, chez la vache après. Et ensuite, ont commencé les premiers essais de phase 1, de phase 2 chez la femme, jeune, qui ont montré que ces vaccins étaient sans danger, innocuité, que ces vaccins induisaient la production d'anticorps neutralisants, mais qui est la moindre des choses. Et même sur des études de phase 2, où il y avait un nombre de femmes assez suffisant pour qu'on puisse comparer leur réponse au virus par rapport à des femmes qui n'avaient reçu qu'un vaccin placebo, c'est-à-dire l'excipient et l'adjuvant, de montrer que la vaccination empêchait l'infection, c'est-à-dire qu'on peut détecter par les tests virologiques, et empêchait l'apparition des anomalies cytologiques qui traduisent l'infection. Donc déjà, on avait le sentiment que les vaccins étaient sans danger, induisaient des anticorps neutralisants et pouvaient protéger. Et actuellement, sont en cours ce qu'on appelle les phase 3 sur des milliers ou dizaines de milliers de femmes, qui en principe devraient s'achever dans l'entour des années 2010 et qui devraient cette fois-ci montrer l'efficacité formellement de ces vaccins, non pas leur efficacité en termes de protection contre le cancer, parce que le cancer, ça demande un long délai entre l'infection et le développement de la maladie, plus de 20 ans en moyenne, mais l'efficacité en termes de protection contre l'infection persistante, contre les lésions qui précèdent le cancer, en particulier le cancer in situ.
Donc finalement, vous, Gérard Hort, vous avez participé à l'élaboration de ce vaccin, indirectement ?
Oui, on a été vraiment, mon laboratoire a passé beaucoup d'années avec pour objectif de montrer que l'on pouvait, un, prévenir la maladie en empêchant l'infection, et aussi guérir les papillomes qui ne veulent pas régresser spontanément, mais là, toujours avec nos amis américains, mais aussi en collaboration avec Transgène à Strasbourg, mais avec moins de succès, je dois dire, parce qu'en fait, les animaux qui ne veulent pas éliminer leurs lésions ont un déficit immunitaire, et on ne peut pas stimuler quelque chose qui est déjà déficient. Et ça, les mêmes difficultés, on les retrouve actuellement chez la femme, parce qu'il y a aussi des stratégies de traitement, c'est le vaccin thérapeutique, hein, où on arrive après l'infection, et on veut aider la femme à se débarrasser ou de sa lésion précancéreuse ou de son cancer. Ça marche pas très bien.
Pour donc l'instant. C'est un vaccin qui pourrait être commercialisé après 2010.
Il y a deux grandes firmes internationales qui sont en compétition, mais à peu près au même stade d'analyse de leur vaccin. Ils ont tendance à être beaucoup plus optimistes et toutes les formalités d'obtention de droits d'utilisation de vaccins sont en cours. Donc je pense que dès que les études de phase 3 sont analysées, ces vaccins sont disponibles. Et c'est le vrai problème, en fait, bon, dans nos pays développés, la prévention du cancer du col, vous le savez, c'est le dépistage des anomalies cytologiques. Mais ce cancer est très fréquent dans les pays en voie de développement, où il n'y a pas du tout de dépistage cytologique, pour des raisons qui sont liées
à l'économie,
à l'absence de structure. Et c'est à eux que devraient en premier lieu s'adresser ces vaccins. Mais vous savez que le vaccin, ça coûte cher et que les firmes qui investissent dans ces vaccins... Enfin bref, on espère en tout cas que les pays en voie de développement auront accès à ces vaccins et bien entendu les pays développés comme les nôtres. Alors avant que ces vaccins soient disponibles, il faut s'intéresser au deuxième moyen de prévenir le cancer du col, qui est le dépistage des anomalies cytologiques qui sont les précurseurs du cancer. Alors, je vous rappelle, il y a l'infection qui survient en général au début de la vie sexuelle, et puis, alors, plus souvent on guérit au dernier moment, sans faire de lésions du tout, ou en faisant des lésions mais qui vont disparaître, et puis il y a des femmes chez qui ces lésions persistent, vont progresser, et éventuellement développer un cancer, si on n'intervient pas. Et justement, c'est le propos du dépistage cytologique, que de dépister des lésions qui pourraient devenir des cancers et de les traiter.
La prévention est donc importante aussi.
Bien entendu que la prévention est importante, et là où elle a été appliquée d'une manière organisée, c'est-à-dire avec une couverture supérieure à 80%, 85-90%, il y a eu une chute très très sensible de l'incidence et de la mortalité par ce cancer dans les pays nordiques. Alors en France, malheureusement, il n'y a que 60% des femmes qui bénéficient de ce type de dépistage, et Et clairement, nous manquons d'une volonté politique d'organiser ce dépistage, de permettre à toutes les femmes d'en bénéficier. Il y a encore 1000 femmes qui meurent de ce cancer, d'un cancer dont on connaît l'origine, dont on connaît la biologie, et on peut considérer que ce n'est pas tout à fait normal.
Alors, Gérard Horte, vous avez donc travaillé, vos travaux ont occupé une large place concernant le papillomavirus, mais en travaillant à l'Institut Pasteur, vous vous êtes aussi penché sur d'autres virus. Comme le SRAS, par exemple.
J'étais monomaniaque dans ma vie professionnelle, puisque j'ai travaillé sur les papillomavirus. Vous avez pu voir que ce n'est pas le papillomavirus, mais que c'est la plus grande famille de virus, finalement. Parce que quand je dis qu'il y en a 200, mais on pense qu'il y en a 300, et qu'il y a encore beaucoup à apprendre. Mais en fait, j'ai exercé des responsabilités de chef département de virologie de l'Institut Pasteur à deux reprises, enfin, au total, pendant 8 ans. Et à cet égard, j'étais... Oui. Bien entendu, j'ai amené à m'intéresser à la vie de mon département et à ce qui s'y faisait. Bon, c'est un département qui recouvre beaucoup de domaines de la pathologie virale, poliomyélite, sida bien entendu, virus des fièvres hémorragiques, grippe, enfin rage. Donc ça m'a évidemment obligé à élargir un peu ma culture virologique et à m'intéresser à des problèmes. Et il se trouve que j'étais en fonction lorsque s'est déclenchée l'épidémie de SRAS et que j'ai vécu ça en direct.
Mais vous restez estampillé papillomavirus.
Bien, l'Académie des sciences m'a élu dans la section virologie. Donc elle m'a estampillé virologiste. Et je pense que c'est pas forcément pour mes compétences dans le domaine des papillomavirus qu'elle m'a... appelé dans son sein, mais je pense que c'est parce que j'ai une culture un peu plus large qui me permet effectivement de participer à des discussions, des débats de société importants sur les maladies infectieuses, sur la place que les maladies infectieuses ont ou devraient avoir parmi les priorités de santé publique en France. Vous savez que dès qu'un virus tue une personne, la presse en empare. Il y a eu, vous savez, les fameuses fièvres hémorragiques, Ebola, Lassa, Marbourg, en ce moment, dont on parle beaucoup. Bien que, quand on fait la somme des morts qu'ont causé ces virus, ce n'est pas très important. Ebola, je m'étais amusé, non. Enfin, j'avais fait le compte des morts qu'on pouvait imputer au virus Ebola, qui ont consacré des films, des livres, je collectionne les cours de presse, donc j'ai un dossier, voilà, c'est 1000 morts peut-être. Alors, mais c'est effectivement, ce sont des maladies qui auraient pu causer beaucoup plus de morts si on n'avait pas jugulé par les mesures d'isolement. Enfin, bref. Donc, à l'Ebola, il a d'abord fallu identifier le virus, qui était un nouveau virus. Donc, vous voyez, tout ça, c'est. Puis, il y a eu le sida, qui est un virus émergent qui vient du singe. Le problème de ces virus émergents, c'est que ces virus sont généralement des virus qui ont franchi la barrière d'espèce, qui infectaient les animaux et qui sont passés chez l'homme à la suite d'un certain nombre de raisons qui sont virologiques, sociologiques, écologiques. Enfin, c'est un domaine très intéressant, ce phénomène-là. Alors, je suis vétérinaire d'origine, donc ça m'intéresse à cela. Et puis, il y a eu le SRAS, qui lui aussi vient de la civette palmiste. Et puis, il y a la grippe aviaire, comme vous savez, dont on parle beaucoup, qui vient des oiseaux sauvages, qui vient des poules. Enfin. Donc, tout ça, c'est ce genre de débat de société et la nécessité de montrer que c'est un domaine qui doit être prioritaire à la recherche si on veut être capable d'anticiper des événements aussi graves qu'une pandémie grippale ou pour un autre virus qu'on ne connaît pas encore, et d'être à même de contrôler cette épidémie, ou de traiter, ou de prévenir. Ça, c'est, je pense que peut-être que ma présence à l'Académie a un rapport avec ça.
Alors Gérard Horte, il existera un vaccin dans les années à venir pour prévenir le cancer du col de l'utérus et actuellement, depuis l'année dernière, il existe aussi un dépistage. Vous pouvez nous en parler ?
Bon, traditionnellement, il y a un dépistage cytologique, comme vous le savez, lorsqu'il a été appliqué sur une grande échelle, a permis de diminuer très sensiblement l'incidence et le mortalité par ce cancer. Mais on sait que ce test a des limites dans sa sensibilité. Et il était proposé depuis quelques années d'associer à la cytologie dans certaines conditions, la détection des papillomavirus qui sont associés au développement du cancer du col. Alors, ceci ne peut pas se faire chez les femmes jeunes, enfin, disons de moins de 30 ans ou 35 ans, en raison de la très grande prévalence ou de la très grande fréquence de l'infection par ces virus. Alors, dépister les 10-20% des femmes n'a aucun intérêt. Mais chez les femmes plus âgées, on considère que la détection de ces virus est un moyen de détecter les femmes à risque de développer un cancer du col et que l'association de ce test à la cytologie pourrait augmenter la sensibilité du dépistage et améliorer donc ce dépistage. Alors, en France, actuellement, cette stratégie n'est pas encore recommandée, mais le test de dépistage est déjà utilisé dans des cas très particuliers de diagnostic cytologique qui posent des problèmes, des anomalies qu'on ne sait pas interpréter et où la détection du virus peut aider au diagnostic.
Clair, une femme fait un frottis, si jamais le frottis est anormal,
pas n'importe quel type d'anomalie, ce qu'on appelle une anomalie d'origine indéterminée, ce qu'on appelle ascus, dans ce cas-là, une des possibilités pour savoir si ce qui pourrait être anormal l'est réellement, c'est de chercher le virus et ensuite de faire ce que le gynécologue doit faire, un examen colposcopique ou histologique. Mais ce sont de toute manière des tests qui prendront de plus en plus place dans la pratique clinique et dans le dépistage de ce cancer.
C'est ce que vous souhaitez, que ça prenne beaucoup plus de place.
Bien entendu, mais parallèlement, devront se poursuivre des recherches sur l'histoire naturelle de l'infection par ces différents virus, qui permettront d'identifier des paramètres importants comme la charge virale, comme le type ou le variant de virus, qui ne sont pas pris en compte par les tests actuels, qui permettront peut-être d'améliorer encore la performance des tests diagnostiques. Mais de toute façon, ces tests-là auront une place de plus en plus grande dans la lutte contre le cancer du col.
Merci Gérard Hort. Je précise ou je reprécise que vous venez d'être fait académicien le 14 juin 2005, avant que vous étiez élu correspondant. Donc finalement, vous êtes toujours resté finalement dans la maison depuis 1996, je crois.
Oui.
Donc maintenant, nous allons pouvoir vous voir régulièrement sur les bancs de l'académie. Je vous remercie Gérard Hort et puis je vous dis à très bientôt.
Bien, au revoir. C'est moi qui vous remercie de votre accueil très souriant.